Potentiel, le podcast qui t'aide et t'encourage à explorer et développer tous tes potentiels. Oser être soi avec toutes ses particularités, voilà en quoi consiste mon travail depuis des années. Moi, c'est Élodie, diplômée en psychologie, en psychanalyse, coach, médiatrice familiale, formatrice et autrice de nombreux livres sur les atypies. Moi-même concernée, multipassionnée et au multipotentiel, j'accompagne les atypiques à trouver du sens à leur vie, tout en restant alignés avec qui ils sont. Mais encore faut-il savoir qui on est vraiment, n'est-ce pas? C'est ainsi que je te souhaite la bienvenue ici, dans ce podcast, et que je te souhaite bien sûr une belle écoute. Et bonjour Florence, je suis trop contente de t'accueillir dans mon podcast Potentiel. Un grand merci à toi d'être là.
Je t'en prie, bonjour à toi Élodie, merci de m'avoir invitée, c'est vraiment super.
Je te suis depuis un petit moment déjà sur ton compte Instagram, on mettra tous les liens en description de ce podcast. J'ai déjà partagé ton contenu tant je le trouve hyper intéressant et pertinent. Tu crées énormément de contenu sur la confiance en soi, la motivation. Tu parles aussi de ta maladie très ouvertement, on pourra en parler si tu le souhaites. Mais moi, si aujourd'hui je voulais te faire intervenir, c'est que je trouve hyper intéressant parce que, et tu l'as exprimé toi-même, tu as un TDAH et un TSA, des neuroatypies sur lesquelles on a beaucoup d'a priori. Et d'ailleurs, j'ai décidé de te contacter suite à un réel que tu avais fait parce qu'en disant « Oh, ben t'es autiste, ça se voit pas ». Et c'est vrai que l'image qu'on a de l'autisme, elle est assez…
Voilà. Elle est carrée, elle est fermée, c'est incroyable.
C'est ça. Mais ce qui est encore plus intéressant, et j'adore vraiment ce que tu fais, c'est là où j'ai beaucoup partagé, c'est aussi toute la sensibilité et la sensibilisation que tu fais sur la manipulation, les relations toxiques, comment prendre soin de soi. Et donc, on va essayer de voir un petit peu ensemble aujourd'hui, est-ce qu'il y a un lien entre les deux ou pas du tout. Mais tu es aussi, à mon sens, multipotentiel quand je vois qu'au départ, tu fais pas du tout ça, puisque tu es tatoueuse.
Effectivement. J'ai plein de casquettes.
Est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce que tu voudrais préciser des choses sur toi?
La seule chose que je vais rajouter et que effectivement personne ne sait parce que j'en ai pas encore parlé, parce que c'est un sujet épineux sur lequel il y a encore plus de préjugés, et la seule fois où je l'ai évoqué, je me suis immédiatement pris des insultes et les clichés classiques. En plus donc de mon diagnostic de TDAH et de TSA, je suis aussi borderline apparemment. Et c'est vrai que pour l'instant, je cherche à trouver comment sensibiliser les gens là-dessus, parce que ce qu'on m'avait immédiatement dit, c'est ça y est, elle est borderline, de toute façon, elle ment sur toute sa vie, c'est forcément des conneries tout le reste de ce qu'elle dit. Du coup, faut que je trouve comment faire un contenu qui désamorce un peu ça.
Je pense que là, tu touches à quelque chose, si je peux me permettre, un petit peu encore plus sensible, c'est la méconnaissance et la crainte qu'on a de tout ce qui est lié à la santé mentale.
Oui.
L'angoisse chez les gens, genre le truc qu'ils ne maîtrisent pas.
Totalement.
Donc, si tu as envie de nous en dire plus dans cet épisode, t'hésites pas du tout. Mais encore une fois, je te laisse la totale liberté d'aller où bon te semble et ce qui te semble pertinent à dire. Je vais commencer du coup par te demander comment tu as découvert tes neuroatypies, notamment le TDAH et le TSA.
La base de ça, c'est que je n'arrive pas à m'endormir. C'est de pire en pire. Je peux faire des nuits blanches parce qu'en fait, mon cerveau ne s'arrête pas de réfléchir. Il y a une idée qui va en amener une autre, etc., etc. Et quand j'ai vu qu'effectivement le problème d'endormissement y était lié, ainsi que pas mal d'autres trucs qui m'ont fait tiquer, je me suis renseignée dessus. J'ai contacté la directrice d'une association sur le TDAH. J'en ai discuté avec elle et elle m'a dit effectivement, ça semble correspondre, ça peut valoir le coup d'aller voir des médecins spécialisés, donc notamment psychiatres, neuropsychologues, etc., pour faire les démarches. Donc, j'ai vu d'abord effectivement un neuropsychologue, qui, précisons-le, n'est pas un médecin. Les neuropsychologues, donc, ne font pas de diagnostic, ils font un bilan pour voir, en fait, quelles peuvent être les pistes à suivre. Et ensuite, on voit un psychiatre qui, lui, est apte à poser le diagnostic. Donc, effectivement, au terme du bilan avec la neuropsychologue, on m'a dit « Vous êtes HPI, ça c'est sûr ». Vous avez peut-être un TSA, vous avez probablement un syndrome de stress post-traumatique, vous avez probablement du TDAH, et le psychiatre ensuite a rajouté effectivement le borderline et a confirmé tout ce qui avait été dit avant.
Qu'est-ce que ça a changé en toi et comment tu as accueilli un petit peu tout ça?
J'y croyais pas au début. Honnêtement, j'ai passé des mois à relire le diagnostic. parce que j'arrivais pas à le croire, en fait. Quand on m'a annoncé d'un coup comme ça, bah, vous êtes autiste. Waouh!
Ouais.
OK! Mais ça a été très, très, très positif parce que j'ai creusé forcément tout ce qui était lié à l'autisme, au TDAH. Et c'est comme si je m'étais redécouverte, en fait. C'est comme, enfin, même si j'avais fait connaissance soudainement avec moi, avec mon fonctionnement, que soudainement j'avais compris comment je vois le monde, comment j'interagis avec les autres, pourquoi j'interagis pas normalement avec les autres, pourquoi j'ai certains blocages. Enfin, c'était vraiment incroyable.
Comme je dis souvent, ça permet de refaire le puzzle. On avait plein de pièces un peu partout. Et là,
C'est
ben,
ça.
on voit le paysage, donc ça t'a soulagé. Est-ce que tu as eu des facilités à en parler autour de toi? Parce que souvent, j'ai des témoignages de personnes qui disent, ben, en fait, c'est très compliqué d'en parler autour de personnes qui ne connaissent pas le sujet, parce qu'on fait face à un effet miroir, à des jugements. Et ça peut être même douloureux parfois de faire face à ça. T'en penses quoi, toi?
Au niveau de l'entourage, j'ai pas eu trop de difficultés parce que mon entourage n'est pas ultra élargi. J'ai plus du tout de contact avec une partie de ma famille. J'ai coupé les ponts justement à cause des relations toxiques. Donc globalement, bah, je l'ai annoncé à mon chéri, mais on en avait déjà pas mal parlé. Il savait que je faisais les démarches. On rigolait beaucoup dessus aussi. Enfin, voilà, je suis arrivée, je suis rentrée chez moi. Je lui ai dit, bah, effectivement, je suis zinzin. Voilà, on en a beaucoup ri. D'ailleurs, je le soupçonne d'être neuroatypique lui aussi, mais lui, il veut pas savoir, il s'en fout complètement. Après, je l'ai annoncé à mes deux meilleures amies. Il y en a une des deux, pareil, qu'on soupçonne d'être neuroatypique, et l'autre chez qui c'est avéré. Donc, globalement, ça a été bien pris.
Et en dehors de ce cercle, est-ce que tu t'es risqué à en parler? Par exemple, suite à ton annonce sur les réseaux sociaux, est-ce que tu vois un petit peu les retours qu'on peut avoir et les préjugés qu'on peut avoir sur ce sujet?
Ben, je l'ai annoncé aussi sur les réseaux sociaux qui concernent mon métier, parce que je me suis dit peut-être que les clients pourront un peu mieux comprendre certaines de mes interactions. Et je l'ai effectivement donc annoncé sur ma page personnelle, où là, j'ai eu de très bons retours de pas mal de gens, notamment certains qui étaient eux aussi neuroatypiques, qui m'ont en gros, bah, souhaité bienvenue dans la famille, quoi. Et de l'autre côté, bah, c'était plutôt des personnes non abonnées qui sont venues dans les commentaires des vidéos où j'en parle, bah, forcément m'attaquer sur base de t'as pas l'air autiste, c'est pas ça l'autisme, tu fais semblant, etc., etc. Les classiques qu'on connaît.
Ouais, moi je dis souvent, on oppose deux extrêmes en fait dans l'autisme, et ce sont
Oui.
deux extrêmes très médiatisés. Et du coup, on oublie qu'il y a tout un spectre, et qu'en général, la plupart d'ailleurs sont dans ce spectre-là. Est-ce que tu veux, toi, nous en dire plus?
Bah, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je le vois aussi avec la maladie dont je suis atteinte, qui d'ailleurs est une comorbidité du TSA, qui est le syndrome d'Ehlers dans l'os. C'est-à-dire que bah, c'est une maladie qui est considérée comme rare et dans laquelle, en général, on va médiatiser les cas extrêmes. Et c'est pareil pour l'autisme. On va médiatiser soit effectivement les personnes qui ne parlent pas du tout, qui ont la bave aux lèvres et qui ne bougent jamais de chez elles, voilà, qui ont besoin d'aide pour absolument tout, tout, tout de A à Z. Et d'un autre côté, on va médiatiser, bah, plus dans les séries, l'autiste génie, mais qui comprend rien aux relations sociales. Entre les deux, il y a plein de possibilités, il y a tout un mix, il y a, voilà. Mais les gens ne se rendent pas compte de ça, en fait.
Tu nous as parlé du fait que ça pouvait engendrer chez toi des problématiques de sommeil, une surstimulation intellectuelle. D'après toi, est-ce que ces atypies ont influencé ta vie personnelle et professionnelle?
Personnel, oui, parce que j'arrive jamais à me poser. Je suis quelqu'un qui est incapable de ne rien faire.
On va en savoir plus, donne-nous des exemples.
Le truc typique, et d'ailleurs mon chéri se fiche tout le temps de moi par rapport à ça, c'est que je suis incapable de regarder la télé. Pour moi, regarder la télé, c'est être passif, c'est ne rien faire, et ça me stresse en fait. J'ai besoin de tripoter autre chose en même temps, j'ai besoin d'être en train, je sais pas, de dessiner, d'écrire un truc, de jouer aux jeux vidéo. Voilà, regarder la télé tout seul comme ça,
Ah,
je
je
peux pas.
comprends tellement, je ne sais pas
C'est
faire non
pas
plus.
stimulant en fait.
Pareil. Du coup, moi, j'aime
Voilà,
pas du tout aller
je
au
fais toujours
cinéma,
36
tu
choses à
vois.
la fois. Ah non, moi non plus.
Voilà, c'est ça.
Je le fais de temps en temps, mais je suis allée voir Oppenheimer cet été. Quand on m'a
Ah.
dit c'est 3 heures de film,
Waouh.
je me suis dit mon Dieu, 3 heures sans bouger, sans rien faire.
Mais surtout, tu veux pas déranger les autres au cinéma, tu vois, limite chez toi, bon, ben, tu te lèves, tu fais autre chose, tandis qu'au cinéma, tu sais, t'es là, bon, je veux pas déranger, donc j'ose pas bouger.
Ça, c'est horrible.
Bon, ça, c'est mignon, c'est pas trop, on va dire, pénible au quotidien, parce qu'il y a quand même des influences. Alors, ça peut être aussi positif, hein, ça peut être aussi peut-être quelque chose de positif que ça a engendré dans ta vie personnelle ou professionnelle.
J'ai découvert très tard que tout le monde n'a pas des images dans la tête, que tout le monde ne se représente pas ce dont on parle, etc. Et moi, ça m'a donné énormément de facilité dans le travail parce que j'ai une excellente mémoire photographique, c'est vraiment incroyable. Et dans le travail, ben forcément, les gens me décrivent ce qu'ils veulent, et des fois, ça peut être complètement approximatif, hein, comme description. Je prends par exemple ma meilleure amie, on en a beaucoup ri. Elle m'a dit, voilà, je voudrais que tu me tatoues l'épaule et je veux que ce soit un truc pointu. Pour n'importe qui, normalement, ça ne veut rien dire. Et pour moi, ça évoque immédiatement plein d'idées, plein de trucs, et ça étonne énormément les gens qu'en fait, avec leur description approximative, eh ben j'arrive à trouver comme ça ce qu'ils veulent. J'arrive ouais à mettre sur le papier les idées ouais mal décrites qu'ils avaient en fait.
Est-ce que tu penses que le fait d'être atypique avec un TDAH, TSA, ça a engendré des difficultés relationnelles?
Oui, énormément, énormément, parce que globalement, déjà la je divise les personnes en plusieurs catégories, en fait. Il y a les gens qui vont pas du tout m'intéresser, les gens que je vais tolérer, mais voilà, je vais pas avoir envie d'avoir tellement d'interactions avec, les personnes que je vois vraiment comme au même niveau que moi et oui, avec qui je vais avoir quand même un intérêt, vouloir avoir des interactions, etc. Et les personnes que je considère au-dessus, qui vont avoir tendance à me faire peur d'ailleurs, qui vont m'impressionner. C'est assez bizarre expliqué comme ça, mais voilà, c'est un peu stratifié. Et j'ai remarqué que si une personne s'attache trop vite à moi, alors que moi je suis pas spécialement attachée, ça va me faire fuir, ça va me terrifier. Je vais avoir l'impression en fait d'être complètement étouffée. Et pourtant, enfin voilà, ça va pas me poursuivre, m'envoyer des messages tout le temps et tout. Mais le peu qu'il y a, c'est déjà trop. C'est très bizarre. Après, c'est des trucs bêtes comme je ne supporte pas d'avoir des gens chez moi. Je déteste inviter des personnes chez moi. Avoir quelqu'un qui dort chez moi, c'est vraiment la pire épreuve du siècle. J'ai qu'une envie, c'est de me louer une chambre d'hôtel et de partir. Et inversement, je ne supporte pas de dormir chez d'autres gens. J'aime pas du tout aller chez d'autres gens. Je préfère les endroits plus neutres, les endroits publics s'il faut voir du monde. Enfin, voilà, c'est des trucs bêtes comme ça. Mais t'as un peu l'impression de passer pour un taré, en fait. Maintenant que je sais que j'ai un TSA, je me dis, OK, c'est normal, ça fait un peu partie des possibilités du packaging. Mais c'est vrai qu'avant de le savoir, je me disais, mais t'es complètement folle, ma pauvre fille.
Non, mais je pense, merci pour ces exemples très concrets parce que je pense que ça peut rassurer beaucoup, tu vois, de personnes là qui nous écoutent, de se dire, ah ok, mais moi aussi, en fait, et en fait, c'est ok. Et j'imagine que c'est tout un exercice aussi de confiance en soi, de se dire à un moment donné, ben, tous ces petits trucs, c'est OK de s'écouter aussi dans ces besoins-là. On va revenir à la petite Florence lorsque tu étais enfant et que tu connaissais peut-être pas tout ça. Quel chemin tu as parcouru? Est-ce que tu as envie de nous en parler? Est-ce que tu aurais des clés comme ça à proposer? Après, ça parle ou ça parle pas, mais en tout cas, que toi, ça t'a aidé à prendre confiance en toi avec tes atypies.
J'ai vraiment travaillé sur moi, j'ai vraiment pris conscience de tous les traumas, de tous les trucs qui n'allaient pas, quand même assez tardivement. Je devais avoir 23, 24 ans quand ça s'est vraiment déclenché. Parce que avant ça, j'avais vraiment, oui, une vie remplie de personnes extrêmement toxiques. J'ai grandi en fait avec des parents toxiques, et il est prouvé que quand on grandit avec des parents toxiques, on a tendance à reproduire ces schémas-là ensuite dans ses relations suivantes, qu'on a tendance effectivement à tolérer tout et n'importe quoi dans sa vie. Et c'est précisément ce que j'ai fait. J'ai été en couple avec plusieurs hommes plus ou moins toxiques, dont un qui était carrément. Alors c'est un diagnostic, mais je pense que c'était un vrai pervers narcissique avec tout ce qu'il caractérise, hein, donc la manipulation, la violence verbale, physique, enfin, c'était épouvantable. Et en fait, sortir de cette relation, ça m'a mis déjà une claque par rapport, oui, au rapport que j'avais avec un peu tout le monde et avec les amis que j'avais à cette époque-là d'ailleurs, qui eux aussi m'ont mis une claque malgré eux, parce que quand j'ai voulu leur dire, bah voilà, Il m'insulte, il me tape dessus, il a failli tuer un de nos animaux, il m'a mis un couteau sous la gorge. J'ai plusieurs amis, soit qui ont rigolé, soit qui ne l'ont pas pris au sérieux, qui m'ont dit que c'était pas vrai, qu'il n'est pas comme ça, que c'était l'alcool. J'en ai une qui m'a dit qu'elle voulait pas prendre parti. Du coup, ça a fait un énorme tri. Je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, ces gens sont complètement aveugles, ils n'en ont rien à faire. Et je veux pas avoir des amis comme ça, en fait. Ils veulent pas prendre parti, ils veulent pas savoir. Et ben, c'est moi qui prends parti, c'est moi qui m'en vais. Et à partir de là, je me suis rendu compte aussi que bah, mes parents étaient bien, bien toxiques. Alors, je le savais déjà plus ou moins. J'avais déjà réalisé qu'ils étaient maltraitants, mais je m'étais jamais dit je vais aller jusqu'à couper les ponts avec. Et puis, à force que effectivement, ils continuent leur manipulation, qu'ils continuent à être toxiques, et qu'en plus ça s'étende à ma relation avec mon conjoint actuel parce que ils sont racistes et qu'ils n'ont pas du tout apprécié que mon conjoint soit métissé. Il y a un moment où je me suis dit, c'est bon, on arrête, je vais leur expliquer pourquoi je coupe les ponts, je vais pas les laisser dans l'ignorance. Je leur explique et on arrête là. Et à partir de là, j'ai lu énormément de choses sur les relations toxiques et je me suis dit, déjà, je vais en parler sur les réseaux sociaux pour moi exorciser ce que j'ai vécu. Et ensuite, de fil en aiguille, en voyant que ça avait une résonance chez les gens qui me lisaient, je me suis dit, je vais donner aux autres tout ce que j'aurais eu besoin d'entendre beaucoup plus tôt dans ma vie pour éviter de tomber dans tous ces schémas-là. Et c'est comme ça que sont venues toutes les vidéos que je fais ou tout ce que je fais au quotidien.
Déjà, merci. Merci voilà, de nous confier tout ça, parce que j'imagine à quel point ça a dû être difficile. Alors, au final, comment t'as fait pour t'en sortir? T'as fait le tri.
Comment j'ai fait
Comment?
pour m'en sortir?
T'as fait le tri.
Bah, ouais,
Après, comment on
littéralement, comment
arrive
j'ai
à
fait le
faire le
tri?
tri? Tu vois, je veux dire, il y a beaucoup de femmes et de femmes qui témoignent, mais du coup, qu'elles n'ont pas réussi à, tu vois, à faire ce choix que tu as fait de faire le tri en disant allez, ciao, j'envoie valser tout le monde, parce qu'à un moment donné, je pense à moi. Comment t'as réussi à faire ça?
Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est mon conjoint. Vraiment, il a été vraiment mon pilier à ce moment-là, notamment parce que lui aussi avait une relation toxique, donc il sait très bien ce que c'est. Il a pu vraiment m'aider à ouvrir les yeux. Et dans un premier temps, j'ai tout simplement arrêté de parler à ces gens-là. Vu qu'ils ne venaient pas me demander de nouvelles non plus, c'était assez simple. Et puis, j'ai changé de numéro. Comme ça, déjà, mon ex ne risquait pas de pouvoir me recontacter. Et j'ai supprimé tous mes contacts de Facebook. Je les ai supprimés, bloqués. J'ai fait pareil sur Instagram. Enfin, voilà. J'ai fait vraiment un tri bah, par le vide, littéralement. J'ai tout dégagé. D'ailleurs, ça a surpris beaucoup de monde parce que j'avais pas mal de piercings sur le visage avant. Et puis un jour, je me suis regardée dans la glace et je me suis dit, ça me rappelle trop les personnes que je fréquentais avant. Et j'ai tout enlevé d'un coup. J'ai rien laissé. Et voilà. C'est parce que c'est comme si ça me démangeait d'un coup, comme si ça me ramenait en arrière. J'ai tout enlevé. Et là, ça a été vraiment le point final. J'ai tout, tout, tout exorcisé.
Ouais, donc Gère, ça peut aussi passer par un changement physique.
Oui, ouais. Alors, le changement, ça a été un changement physique et un changement de look. Parce que, bah, à l'époque, donc, j'avais les cheveux teints en rouge, j'avais des piercings, j'avais un look un peu plus qu'on pourrait qualifier de gothique, entre guillemets. Vraiment, j'ai tout viré et maintenant les gens se foutent de moi parce que je suis habillée en meuble IKEA belge,
Ah oui, c'est très
mais je préfère
classique.
largement ça. Ouais. Ah, je suis passée d'un extrême à l'autre. Et c'était un besoin en fait, c'était viscéral. Il fallait enlever tout ce qui rappelait ce qu'il y avait eu avant. Mais ça s'est pas fait en 2 minutes, ça c'est clair et net. Ça s'est échelonné sur plusieurs années. J'ai d'abord viré les relations. Changer petit à petit mon look, enfin voilà, ça a pris 3-4 ans.
Merci de préciser pour les personnes qui justement voudraient justement faire ce changement-là, de dire que malheureusement ça prend du temps aussi de se reconstruire. Et avec bah, ces expériences-là, aujourd'hui, tu en parles beaucoup et tu sensibilises beaucoup aux relations toxiques sur les réseaux sociaux. Est-ce que déjà tu penses que les atypiques, le fait d'être TDAH, d'être TSA, est-ce qu'on est plus victime selon toi justement des personnes qui sont bah, manipulatrices, pervers narcissiques et autres?
Oui, notamment parce que nous sommes hypersensibles et qu'il y a une grosse compassion, vraiment une grosse capacité à se mettre à la place de l'autre. Donc c'est très facile pour les autres de jouer les victimes et pleurer auprès de nous parce que on a beaucoup, beaucoup de compassion. On ressent vraiment ce que ressentent les autres. Ça fait beaucoup partie du TDAH et du TSA. Et puis, il y a ce problème aussi qu'on a du mal à comprendre les interactions sociales, à comprendre les intentions des autres. Donc, c'est très facile de nous manipuler, de nous faire croire que c'est nous qui avons mal compris, d'avoir des intentions cachées qu'on ne détecte pas. Enfin, ouais, on est des victimes parfaites, en fait.
Ouais. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis quand tu dis oui, ces gens qui se victimisent en fait, et donc nous on veut arriver, les sauver, les aider avec notre compassion. Et ça c'est intéressant parce que souvent on imagine justement le manipulateur, le pervers narcissique, comme quelqu'un justement qui n'est pas dans la victime du tout. Alors que toi tu parles justement de ces profils, de faire attention. Est-ce que tu veux nous en dire plus?
Alors, le classique qu'on retrouve chez tous les pervers narcissiques, c'est qu'effectivement, ils sont très agressifs, mais sans vraiment le montrer. Ils vont vraiment avoir ce côté, je détruis l'autre, mais par des petites touches. C'est presque invisible, surtout aux yeux des autres. La personne qui est victime, elle se fait détruire petit à petit, et même elle n'en a pas forcément conscience. Oui, le pervers narcissique, en fait, va se mettre en position de force par rapport à l'autre, mais il va aussi faire en sorte que, au moindre reproche, au moindre soupçon, sur son comportement, de se placer en victime, en fait. Je donne par exemple l'exemple, de mon ex. Il m'a plaqué contre un mur en me tenant par la gorge et il m'a mis un couteau à cran d'arrêt sous la gorge, bien plaqué contre la peau. Et quand je l'ai confronté, que je lui ai dit, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Il a d'abord essayé de retourner ça contre moi, de me dire que c'était ma faute, parce que dans la tête du pervers narcissique, rien n'est jamais sa faute. Donc c'était ma faute parce que j'avais bu trop d'alcool et que j'étais énervée. C'était le soir du Nouvel An et j'étais la seule personne sobre dans tout l'appartement. Donc non. Vu que cette excuse-là n'a pas marché, il a essayé le côté oui, mais c'est moi qui avais bu, voilà, tu te rends compte, pauvre de moi, j'étais plus victime, enfin, j'étais plus maître de moi-même. J'ai pas écouté cette excuse-là non plus, je l'ai pas acceptée. Du coup, il a essayé un autre truc, il m'a dit, mais ben voilà, c'était pour te calmer, parce que tu te rends compte, tu t'énerves. Oui, effectivement, j'étais en train de m'énerver parce que son pote qui était complètement défoncé et alcoolisé était en train de démonter la porte de la salle de bain et d'arracher le papier peint du salon. Et effectivement, j'étais pas très d'accord. Mais voilà, rien n'est jamais sa faute. Il t'a mis un couteau sous la gorge, c'est ta faute. C'est incroyable. C'est absolument aliénant, en fait. C'est vraiment ça, une victime de pervers narcissique a complètement perdu les repères de ce qui est normal parce que le pervers narcissique fait en sorte de lui retourner la tête. Et tu t'en rends compte en général, ben, quand tu reviens à la réalité ou quand on te met devant les yeux ce qui est censé être normal, ce qui est censé être une relation normale. Et en général, tu te prends un peu une claque quand même en réalisant la différence entre ta relation et ce qui est censé être acceptable.
Ouais, je vais faire quand même, c'est important de dire dans ce podcast, que non, aucune forme de violence n'est à tolérer dans n'importe quelle relation. Ce n'est
Exactement.
pas normal. Il n'y a rien qui n'excuse la violence, absolument jamais. Et alors là, tu nous donnes un exemple très, très extrême, bien sûr. Mais pour les personnes qui nous écouteraient, je pense que c'est important de dire qu'il y a d'autres formes de violence qui ne sont pas normales et qu'on n'a pas besoin d'avoir des choses comme ça extrêmes pour dire stop aussi. Et ça, je trouve que c'est très important de le dire. Et merci d'en témoigner. Du coup, j'ai envie de te demander, maintenant que tu as un peu plus de recul sur ça, si d'autres personnes sont en train de vivre dans une relation toxique, mais n'ont pas d'exemple aussi fort, et donc se disent, bon ben non, moi il m'est pas arrivé ça, donc peut-être que c'est pas le cas. Est-ce qu'il y a des red flags que tu peux proposer à ces personnes-là pour déjà se rendre compte qu'elles sont potentiellement d'une relation qui n'est pas saine?
Alors, faut savoir que même moi, avec des trucs aussi violents que ça, même moi, je me disais, c'est bon, c'est pas grave, il y a pire que moi.
Ah ouais. Ouais, non, mais
C'est
c'est ça.
voilà. Ça, d'ailleurs, c'est un truc typique de si vous avez grandi, par exemple, avec des parents manipulateurs ou violents ou peu importe, ou même tout en même temps, vous êtes tellement habitué en fait à vivre dans la violence que vous ne vous rendez plus compte de ce qui est violent ou pas. Pour ça, j'avais un outil qui était très 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 utile, très pertinent et très simple. Il s'appelle le violentomètre. On le trouve très facilement sur Google, il suffit
C'est
de
vrai.
regarder.
où vous avez en fait une échelle avec les choses qui sont normales, les choses qui deviennent moins normales et les choses qui sont très alarmantes. Et c'est vrai que moi, je me suis pris une claque en le voyant, en voyant que dans le très, très alarmant, très, très grave, il y a se faire menacer avec une arme. Mais il faut garder en tête que les insultes ne sont pas normales. La violence n'est pas normale parce que, par exemple, lui, enfin, mon ex, il lui arrivait de me broyer la main ou de me serrer le bras très, très fort devant tout le monde. Ça faisait réagir personne. Ça laissait pas de traces, mais c'est de la violence. Ça peut être utile de regarder un autre couple et se dire, est-ce que ce serait normal que lui, il fasse ça à son partenaire? Est-ce que je verrais mes parents se comporter comme ça l'un avec l'autre? Est-ce que je verrais même les parents de mon conjoint se comporter comme ça l'un avec l'autre? D'ailleurs, j'avais essayé de faire cette comparaison-là avec mon ex. Et c'est là que vous voyez le déni jusqu'au bout. C'est que je lui ai dit, est-ce que tu imagines ton père faire à ta mère ce que toi, tu me fais? Et il m'a dit, nous, c'est pas pareil.
Ah.
C'est lunaire comme explication,
Merci
mais
beaucoup.
voilà.
Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as guéri de tout ça? Comment aujourd'hui tu as réussi à créer un couple stable, sain, où tu te sens en sécurité?
Ça a été un travail mutuel, en fait. J'ai la chance d'être tombée sur quelqu'un qui, bah, malheureusement pour lui, est aussi tombé sur une personne toxique avant, qui lui avait déjà commencé son travail de reconstruction avant de me rencontrer et qui du coup a pu m'aider à faire ce travail de reconstruction aussi, qui m'a notamment aidée au tout début, quand on est encore accro en fait à la relation toxique, c'est très bizarre, hein, mais ça a beau être une relation horrible, destructrice, violente. On est un peu comme un drogué en fait, on va y revenir quand même, ça nous fait du mal, mais on y revient. Parce qu'on s'accroche à l'espoir que peut-être cette fois-là, la personne toxique va changer. Et elle ne changera jamais. Elle peut vous le faire croire, mais elle ne change jamais. Donc, faut déjà effectivement cette période de sevrage, en fait, où il faut vraiment tout couper. Il ne faut pas la voir, il ne faut pas lui parler. Alors, ça peut être très dur quand vous étiez marié avec et que vous avez des enfants en commun. Et dans ce cas-là, il faut dire le minimum vital à cette personne, c'est-à-dire vraiment uniquement l'utile. Pas d'affectif, rien à quoi la personne puisse se raccrocher. Et donc, si vous le pouvez, donc il faut le bloquer des réseaux sociaux, il faut éventuellement donc changer de numéro de téléphone, il faut vraiment que cette personne n'existe plus. Quitte aussi à dire à vos proches, ne me parle pas de cette personne, je ne veux pas savoir ce qu'elle dit, je ne veux pas savoir ce qu'elle fait, je ne veux pas savoir ce qu'elle devient. Faut pas hésiter à aller en parler à un professionnel aussi, parce que ça, moi personnellement, je l'ai pas fait, mais je pense que ça m'aurait beaucoup aidé, et d'ailleurs, je vois une psychologue maintenant, et c'est absolument génial. Et ensuite, une fois que tout est coupé, ça va pas se faire du jour au lendemain. Vous allez l'oublier petit à petit, mais ça prend beaucoup de temps. Il y aura des moments où vous aurez l'impression que tout va très bien, que vous l'avez bien oublié, que vous avancez. Et puis il y a des moments où vous allez retomber, où vous allez vous dire, ouais, mais ça se trouve, j'ai pas suffisamment essayé. Si ça se trouve, j'ai mal interprété. Si ça se trouve, c'est ma faute. Est-ce que j'ai encore une chance de revenir? Il a l'air d'être heureux sans moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je peux le récupérer? Est-ce qu'on peut encore. Pour laisser tomber tous ces espoirs-là. Bref, tout faire pour exorciser la chose, sans impliquer cette personne là-dedans, parce que de toute façon, ça c'est clair et net, il faut la sortir de votre vie.
Merci beaucoup, vraiment Florence, de toutes ces astuces. J'espère que ça va rassurer les personnes qui se questionnent actuellement si elles sont ou pas dans une relation toxique. Est-ce que, alors j'aime bien finir quand même ce podcast, tu vois, j'ai lancé le podcast Potentiel pour non pas, alors on va pas nier les difficultés qu'on a lorsqu'on est atypique parce que je pense qu'on les connaît, mais pour essayer quand même de montrer qu'on peut transformer ça en quelque chose de positif. Tu dirais quoi par rapport à ton TDAH, à ton TSA? Quels sont les potentiels que tu en tires dans ta vie personnelle comme professionnelle?
Déjà, c'est que je suis extrêmement créative. Mon cerveau s'arrête jamais, donc ça vient comme ça, en fait, les idées. C'est absolument génial. J'ai beaucoup de facilité sur certaines choses, notamment si ça m'intéresse. J'ai vraiment dévoré les informations à ce sujet. Donc, ça m'a permis d'avoir pas mal de facilité à l'école. C'était aussi n'importe quoi parce que du coup, les matières qui m'intéressaient où j'avais des facilités, j'avais des super notes et les matières que je détestais ou que je ne comprenais pas, c'était une catastrophe. Avec l'excellente mémoire photographique que j'ai, ça me permet de retenir énormément de choses, de garder en mémoire énormément d'informations, d'avoir aussi une sorte de très bon sens de l'orientation parce que je retiens tous les trajets qui sont faits, toutes les choses que je vois, c'est super pratique.
Ça va être pratique de voyager avec toi, effectivement.
Oui, j'ai aussi super pouvoir à la maison. En fait, si un truc est posé, je retiens où il est posé, où il est rangé, etc. Donc, je vais pouvoir le retrouver. Après, il y a aussi le côté très carré du TSA qui fait que je suis très, très organisée au niveau du travail. Il n'y a pas un truc qui dépasse. Et d'ailleurs, ma banquière était absolument ravie de ça parce que les factures, j'ai les papiers qui sont tout bien faits et tout, toute la compta. Enfin, voilà, une merveille. Et puis, je suis toujours, toujours, toujours à l'heure. Enfin, même en avance. Je suis toujours en avance. Et parce que c'est épouvantable pour moi, en fait, d'être en retard.
Je comprends ça. Est-ce qu'on pourrait pas dire, alors je propose une hypothèse, tu me dis ce que tu en penses, que ça t'a aussi permis peut-être de guérir plus vite, de rebondir plus vite face à tout ce que tu as vécu et que ça t'a donné une force de résilience supplémentaire?
On peut le dire, on peut même l'affirmer parce que la neuropsychologue que j'ai vue l'a affirmé elle-même. Mon TSA a énormément aidé à compenser tous les traumatismes que j'ai eus dans ma vie. Elle m'a dit mot pour mot, c'est simple, si vous n'aviez pas eu votre TSA, vous auriez fait plusieurs séjours en psychiatrie parce qu'avec le passif que vous avez, n'importe quelle personne neurotypique aurait terminé en psychiatrie. Le TSA a vraiment fait office d'éponge et m'a permis de continuer, en fait.
Ça t'a protégé.
Oui, exactement. On peut lui dire merci.
Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose ou dont on n'aurait pas parlé?
Je ne pense pas. C'est drôle cette question-là parce que je ne sais jamais quoi y répondre. Les questions évasives comme ça, voilà, encore une fois, merci le TSA. Je ne sais pas y répondre. C'est apparemment, j'ai découvert que c'était un classique dans le TSA. Les questions
Pour
trop
l'instant.
générales comme ça, je sais pas.
Eh bien, je te remercie. J'espère vraiment que cet épisode, pourra aider d'autres personnes, pourra les faire réfléchir, leur permettre de voir peut-être le TDAH et le TSA autrement et de voir que ça peut être aussi une force, positive face à certains traumas de la vie, que ça n'empêche pas, de se faire accompagner et de demander de l'aide, surtout de demander de l'aide.
Oui.
Donc, un grand merci à toi. Honnêtement, suivez le travail de Florence. Je vous mets tout ça en description parce que je trouve tes réels, hyper pertinents à chaque fois, hyper
Merci.
aussi empathiques. Et authentique, et je sais que ça parle beaucoup à ma communauté.
Oui, c'est vrai.
Un grand merci à toi et je te dis au revoir.
Avec grand plaisir, à bientôt.
C'était le podcast Potentiel par Elodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée.